à tout le monde, au nom de l'Association des Amis de Chalet, qui a le plaisir de vous accueillir et d'accueillir le frère Marie-Augustin Laurent. Et à vrai dire, je vais lui laisser tout de suite la parole pour qu'il se présente. Et puis, voilà.
Merci. Rebonjour à vous tous, merci d'être montés aujourd'hui ou cet après-midi. Merci aux amis de Chalet et aux sœurs pour leur invitation, à sœur Agnès particulièrement, qui est la fautive, qui m'avait fait cette invitation au mois d'août. Très rapidement, je suis le frère Marie-Augustin Laurent-Huyghe-Beaufond. Laurent-Huyghe-Beaufond, c'est mon nom de famille, Marie-Augustin, c'est mon nom de frère dans l'ordre. J'ai 33 ans, je suis rentré dans l'ordre, ça fait 8 ans maintenant. Je suis au couvent de Strasbourg, ce qui explique le fait que je parte un petit peu précipitamment à la fin de la conférence, puisque il faut que je rentre à Strasbourg, nous avons chapitre demain. À Strasbourg, et mes pas me mènent fréquemment en Finlande, où j'ai passé mon année diaconale il y a quelque temps, et où je garde des attaches. Alors, deux de mes apostolats expliquent ma présence devant vous aujourd'hui sur ce thème. Tout d'abord, une charge provinciale. Le dernier chapitre provincial de la province dominicaine de France m'a nommé promoteur provincial de l'apostolat auprès des jeunes. Alors le titre est très très ronflant, c'est juste un rôle d'animation et de corps sur ce terrain de la jeunesse. Et puis, il y a aussi un apostolat exercé à Strasbourg, localement. J'enseigne dans une école d'ingénieurs, l'ECAM Strasbourg Europe. ECAM, ça veut dire École catholique des arts et métiers. Strasbourg Europe, c'est une école jeune qui s'est créée il y a une dizaine d'années sous la forme d'un partenariat entre le diocèse de Strasbourg et la Chambre de commerce et d'industrie du Bas-Rhin. Ce genre de montage est possible en Alsace, c'est le pays du Concordat. J'y enseigne l'éthique de l'ingénieur, c'est un enseignement mêlant philosophie des sciences, philosophie de la religion et un petit peu de doctrine sociale de l'Église. C'est un enseignement obligatoire pour les élèves ingénieurs de cette école. Et jusqu'en juin dernier, j'enseignais aussi la culture religieuse dans un lycée de Strasbourg, puisque l'enseignement religieux est obligatoire dans tout l'enseignement obligatoire des départements concordataires. Et puis, un peu avant, j'avais été aussi aumônier d'étudiants à Strasbourg. Si je me présente en faisant un peu la liste, le catalogue de tous les lieux où je suis investi auprès des jeunes, c'est pour vous dire que mon discours de cet après-midi m'engage d'abord moi, parce qu'il est fait à partir aussi de mon expérience. Je ne suis pas sociologue, je ne suis pas spécialiste de la jeunesse en particulier. Je vois des jeunes, je les côtoie, je travaille avec eux et auprès d'eux. Et puis par ailleurs, je me documente et je m'informe. Et c'est le fruit de ce travail de terrain et le travail de sources diverses relues à la lumière de mon expérience. C'est tout cela que je vous propose maintenant sur un intitulé qui est un chouïa plus général que ce qui vous était annoncé et qui figure sur les affiches, qui parlait spécifiquement de religion, mais j'y viendrai aux religions. Je parlerai quand même de la perception des religions par les jeunes, mais en préparant cela, il m'est apparu qu'il fallait quand même faire quelque chose de plus général sur les valeurs des jeunes pour pouvoir en parler. Je vais commencer par deux grands enseignements tirés d'une enquête sur les valeurs des jeunes, une enquête qui date de 2008. Alors c'est un petit peu ancien, mais c'est intéressant quand même, je vous expliquerai pourquoi. Et je dois travailler à partir de chiffres, parce qu'il faut bien s'appuyer sur de la statistique pour sortir de l'anecdotique et de l'expérience personnelle. Cette enquête de 2008 est un peu ancienne, mais intéressante parce qu'elle permet de dégager des tendances et de se donner un cadre général pour penser les valeurs des jeunes en les resituant dans une dynamique historique. Ces deux enseignements, je les résume par ces deux phrases que vous avez là pour les deux premières parties de mon exposé. Le premier renseignement, c'est « il n'y a plus de morale », point d'interrogation, notez le point d'exclamation. Il n'y a plus de morale pour parler du libéralisme d'ordre privé, je dirais ce que ça veut dire, qui guide les jeunes. Et puis, il n'y a plus de jeunesse pour signifier la fin de certains clivages qu'on utilise encore commodément, qui étaient très structurants à une époque et qui sont en fait de moins en moins pertinents pour situer les jeunes dans la société. Dans un troisième temps, je proposerai une réflexion sur la place de la religion dans le système de valeurs des jeunes et Dieu dans tout ça. Et là, c'est les préoccupations du baptisé et frère prêcheur qui se feront entendre pour cette dernière partie. Je commence tout de suite avec « Il n'y a plus de morale ». Il n'y a plus de morale. Avec un point d'exclamation, c'est un constat qui flatte peut-être une certaine représentation du monde, de la société et de sa jeunesse. Une représentation qui est souvent teintée de mélancolie quant à des temps anciens qui étaient forcément plus heureux. C'était mieux avant. Je crois que ce constat est en fait faux. Certes, les valeurs des jeunes changent, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a plus de morale. C'est juste que cette dernière aussi change de figure. Je vais m'appuyer ici sur la dernière enquête valeur menée par l'ARVAL, ARVAL pour Association pour la Recherche sur les Systèmes de Valeurs, ARVAL. C'est un groupe d'une quinzaine de chercheurs universitaires français en sociologie et en sciences politiques, et cette enquête, ils la mènent dans plusieurs pays d'Europe, pratiquement la totalité de l'Union européenne, et ils la mènent aussi sur plusieurs tranches d'âge. Et avec le même questionnaire, pour toutes les tranches d'âge, pour tous les pays, le même questionnaire, et ça c'est encore plus intéressant, cette enquête est menée régulièrement tous les 9 ans. Ça c'est très intéressant, ça permet de suivre des tendances, et c'est pour ça que j'ai utilisé cette enquête-là. On peut voir apparaître des tendances sur l'évolution des valeurs de chaque génération, voir que les valeurs d'un groupe donné, qu'est-ce qu'elles deviennent lorsqu'ils vieillissent, et voir que pour une tranche d'âge donnée, vague d'enquête après vague d'enquête, qu'est-ce que cette tranche d'âge-là, au même âge, qu'est-ce qu'elle dit de ces valeurs ? Le constat pour la France de cette dernière enquête, qui a été menée en 81, 90, 99 et 2008, pour la dernière itération, c'est donc que la morale qui guide et oriente les choix et actions des jeunes, cette morale devient de moins en moins déontologique, c'est-à-dire de moins en moins référée à des normes dictée par des institutions, et cette morale, elle devient de plus en plus relationnelle. Relations viennent les valeurs qu'ils ont. C'est le premier grand enseignement que cette étude dégage. Je vais m'arrêter un petit peu sur cet enseignement. Alors, il y a ce constat qui est partagé par de multiples acteurs sociaux, éducateurs, parents, vous-même sans doute, ce constat que les jeunes sont plus autonomes que leurs aînés dans la conduite de leur vie, ou du moins qu'ils aspirent à davantage d'autonomie que ceux qui les précèdent. Ça, c'est une tendance constante depuis la première fois qu'il y avait cette enquête, en 81. Les jeunes de 81, quand ils étaient interrogés par cette enquête, s'affichaient comme étant beaucoup plus autonomes que leurs aînés. Et ceux de 2008 le sont encore plus. Ça, c'est une tendance de fond que, je pense, vous partagerez sans aucun problème avec moi. Mais cette autonomie ne signifie pas un plus grand individualisme. Alors l'individualisme, c'est très commode, c'est un raccourci très très commode pour décrire la société actuelle dans son ensemble, en particulier les jeunes. Vous entendez, vous dites sans doute, oui, ces jeunes qui sont tout le temps le nez fourré dans leur smartphone, c'est vraiment chacun dans sa bulle, quel individualisme ? Or je crois que ce n'est pas complètement le bon terme. Je note par exemple que si ces jeunes étaient seulement individualistes, ils n'auraient pas une conscience écologique aussi forte. Or ça, c'est quand même assez présent dans la tête des jeunes. On les voit se soucier de plus en plus de l'avenir de la planète, du devenir de nos écosystèmes, sans que ça se traduise nécessairement par un vote politique derrière. Je parle simplement en termes de conscience. Et ils veulent souvent retranscrire cela dans leur style de vie, en prenant par exemple garde à la malbouffe, à l'origine des aliments qu'ils consomment, aux produits d'hygiène qu'ils utilisent. Et ça se repère notamment beaucoup chez les jeunes professionnels qui commencent à pouvoir poser des choix de vie en toute autonomie. Ça, cette conscience écologique, ce serait complètement incompatible avec un individualisme brut qui clamerait haut et fort « Hors de moi, rien ne m'inquiète, après moi, le déluge ». Donc je crois qu'un meilleur terme serait plutôt celui d'individualisation. Individualisation plutôt que individualisme. Non pas un individualisme cardinal, hein, qui commande toutes les valeurs s'organisant autour de ça, mais plutôt un principe d'individualisation des valeurs, c'est-à-dire que les valeurs des jeunes sont portées de plus en plus de manière extrêmement personnelle, dans une quête d'identité personnelle. Vous comprenez bien la distinction qu'il y a entre un individualisme qui organise, qui dicte et qui rend certaines valeurs impossibles parce qu'elles sont rattachées, parce qu'elles ne sont pas individualistes, qu'elles jouent le porteur de ces valeurs et recherche son identité en l'affirmant à travers un certain nombre de valeurs. Ce que l'individualisation a de commun avec l'individualisme, c'est qu'elle se manifeste, cette individualisation, par une prise de distance face aux appartenances assignées, face aux normes portées par des institutions. Le rapport aux institutions, ce n'est pas une nouvelle, il a énormément changé. L'individualisation va valoriser les choix personnels. L'individu devient le fondement de valeurs qui ne sont plus données de l'extérieur. C'est à lui de formuler ses valeurs et de les traduire après en actes dans une réalité sociale, relationnelle, amicale, économique. Ça, c'est une évolution historique qui a connu ces 30 dernières années une accélération. Et ça, les résultats de l'enquête valeur, vague après vague, témoignent de cette accélération de la prise de distance par rapport aux institutions et aux normes assignées. Mais la comparaison entre individualisme et individualisation s'arrête là. Car cette mise à distance des institutions n'est pas synonyme d'un triomphe de la permissivité qu'on attendrait comme corollaire de l'individualisme. L'individualisme, hein, moi seul, compte, tout le reste, très bien, ce que font les autres finalement, c'est très bien, et beaucoup plus de permissivité. Ce n'est pas forcément ça qu'on voit apparaître dans cette enquête. Si les limites fixées par les individus à leur choix ne sont plus aujourd'hui dans des règles impersonnelles, intangibles, portées par des institutions, elles résident pour une large part dans le rapport à autrui. Elle y cite ce qui ne nuit pas aux autres, est condamné ce qui peut avoir des conséquences négatives sur autrui. Donc il ne faudrait plus dire qu'il n'y a plus de morale, mais seulement qu'elle n'est plus référée à la permanence d'institutions qui disent la loi. Et c'est en ce sens-là que je parle d'une morale qui est de moins en moins déontologique. Déontologique, hein, la loi, il faut, le verbe grec derrière c'est il faut, mais donc de moins en moins référée à un code de loi, un recueil de normes données par des institutions. A l'inverse, la morale des jeunes, selon l'enseignement de cette enquête, serait de plus en plus relationnelle, dans la mesure où les relations interpersonnelles sont de plus en plus décisives pour bâtir sa propre morale individuelle. Cette morale relationnelle fonde les normes non plus sur des principes abstraits, mais sur leurs conséquences concrètes, notamment vis-à-vis des plus proches. Elle est très liée, cette morale, à la place importante que tiennent pour les jeunes générations les proximités affectives, la famille et les amis. Je prends un exemple. La famille et de fidélité dans le couple sont de plus en plus valorisées. Il y a un vrai comeback de la fidélité et de la famille dans les valeurs des jeunes. Avec la place de la famille, la fidélité amoureuse revient en force. Hein, ils soutiennent, ils remarquent que c'est bien, que la famille, ça compte, c'est important, c'est un réseau de relations stable, et pareil, le couple fidèle. Et tout de suite, je tempère ce constat en disant « attention » en lisant ce résultat. Ce résultat qui commence à être un petit peu connu dans certains cercles, notamment des cercles chrétiens, et je vois notamment des chrétiens, des catholiques, peut-être classiques, mais pas seulement, se gargariser de ce que des valeurs dites chrétiennes redeviennent à la mode. Attention, ces mêmes jeunes qui attachent de l'importance à la fidélité sont les mêmes qui acceptent très facilement le divorce, et en tout cas plus facilement que la génération de leurs grands-parents. Et quand ils disent être attachés à la famille, ce n'est pas à la famille des années 50, papa, maman, enfant, c'est à leur famille d'aujourd'hui, bien souvent recomposée avec des demi-frères, des demi-sœurs et des liens de filiation redéfinis de manière complexe, au point qu'on a proposé à une époque le vocable de tribu plutôt que de famille dans certaines études sociologiques. Rien de catholique dans tout cela. Mais après tout, la fidélité et la famille ne sont pas l'apanage des chrétiens. Et puis surtout, si la famille et la fidélité ont le vent en poupe chez les moins de 25 ans, c'est au nom d'un constat qu'ils font, qui n'est pas formulé de manière consciente, mais un constat anthropologique et relationnel. Ces jeunes constatent que la fidélité favorise la stabilité des relations et donc l'épanouissement de soi, pas du tout au nom d'une norme donnée par une institution telle que l'Église. Donc je lance ici une petite pique. Ne prenons pas en Église des vessies pour des lanternes et demandons-nous aussi si nous prêchons des valeurs familiales ou si nous annonçons le Christ, en espérant éventuellement que des valeurs suivront par voie de conséquence. Mon regard sur ce résultat de l'étude, quand je parle d'individualisation, est un petit peu mitigé. Je me dis d'abord qu'on peut se réjouir de ce que le caractère relationnel de la vie humaine, de la personne, redevienne primordial, de facto, dans les valeurs des jeunes. Je trouve, en tant que chrétien, chrétien et apprenti théologien, que c'est heureux, parce que c'est un des grands apports du christianisme à la pensée occidentale, qui s'est modelé sur ce concept de personne comme un être de relation. Et d'un autre côté, je m'inquiète de ce que cette morale relationnelle se tisse sur un fond d'individualisation. Il y a, c'est très net, un repli sur des cercles individuels proches, les cercles de ma communauté affective. Et le communautarisme religieux qu'on fustige à longueur d'éditorial dans la presse, sur des cercles proches, c'est partout dans notre société, ça s'est accéléré depuis 5 ou 10 ans, l'entre-soi et le manque de brassage sont patents dans notre société à tous les niveaux, sur tous les plans. Donc, repli sur le cercle des proches, sur la communauté, et en même temps, désengagement des institutions, désinvestissement de la relation entre l'individu et les institutions. Qu'elle soit politique, que ce soit la presse écrite et les médias, les églises, les syndicats, tout ce que vous voulez. Ça, c'est la mort à petit feu des corps intermédiaires de notre société qui étaient ces courroies de transmission entre le peuple et les grandes institutions dans les deux sens. Je ne vais pas en refaire l'histoire de la mort des corps intermédiaires, c'est un constat qui est assez partagé. La mort des grandes idéologies au XXe siècle, une économie libérale, notre 5e République est un petit peu malade et qui rêve un rapport immédiat entre les dirigeants et les citoyens, tout plein de choses. Mais en tout cas, on en voit les conséquences. Il y a une perte de confiance dans les institutions, car il y a une perte de sens des institutions qui ne sont plus vues que comme des prestataires de droits et de services et non plus comme résultant d'un projet commun porté par toute une société. Ce constat est très très partagé, il y a une littérature abondante sur le sujet pour analyser le phénomène. Je vous renvoie par exemple à « Situation de la France » de Pierre Manant, qui est sorti l'an dernier en 2015, qui avait fait un petit peu de bruit à l'époque. Et puis plus récemment, Jean-Pierre Le Goff, « Malaise dans la démocratie ». Tous les deux analysent très bien les causes de ce phénomène et ses conséquences possiblement dramatiques sur l'état de la société, puis sur notre état tout court, sur nos institutions nationales et républicaines, sur le contrat social, sur tout ça. Je reviens à mes jeunes, et donc à leur morale qui change de visage. On a souvent tendance, notamment dans les médias, c'est un discours un peu convenu, un peu tarte à la crème, à raisonner en termes de perte de valeur, ou de retour à des valeurs refuges, alors qu'en fait, ce qui se passe, c'est une individualisation des valeurs. Les valeurs abstraites et collectives laissent la place à des valeurs concrètes, librement consenties, qui se valident dans des relations interpersonnelles. Ce critère de validation est très très important. Validation par mes proches, ceux que je connais, mes voisins, mes amis, ma famille. J'entends parfois dire « Oh, ils sont généreux, ces jeunes, et si solidaires. » Non, non. Charité bien ordonnée commence par ses proches. C'est mon réseau affectif que je sers d'abord, via une solidarité qui met en avant les proximités affectives. Les jeunes sont très conscients que notre société ne marche plus, qu'on ne peut plus compter que sur soi-même et sur ses proches, que c'est maintenant le règne de la débrouille et du piston pour trouver un emploi, que leurs retraites ne seront pas forcément payées. Anecdote. Lors du grand amphi de rentrée, le directeur nous avait dit de manière très tranquille et officielle, je cite, « Vous cotiserez toute votre vie pour un système qui explosera avant que vous ne puissiez en profiter. Donc, dès votre premier salaire, vous mettez de l'argent de côté dans un système de retraite privé, par capitalisation, de préférence à l'étranger, pour être sûr que l'État n'y mettra jamais ses mains. » On m'a dit ça, et je sais que ce discours a été reproduit, dans cette école-là, en tout cas, dans les promos qui ont suivi. Voilà. Alors forcément, ce genre de déclaration, lorsqu'on n'est pas encore dans la vie active, ça mine un peu la confiance dans l'État, dans la politique, dans les grandes institutions, et ça invite à se débrouiller seul, à se concentrer sur un cercle de proches à envisager les choses à un horizon beaucoup plus resserré géographiquement et temporellement. Ce sentiment d'incertitude sur l'avenir, je le vois de manière très très présente chez les jeunes que je côtoie, hein, les élèves ingénieurs que je vois, les étudiants que j'avais en aumônerie. J'entends beaucoup, alors peut-être qu'ils ne le disent pas ailleurs, peut-être que c'est à l'aumônier qu'ils le disent, mais ils ont conscience de vivre dans un monde social et politique qui ne les protège pas, qui les laisse se débrouiller tout seuls ou avec l'appui parfois très limité de leurs parents. Ça, je suis même frappé de voir en aumônerie le nombre de jeunes qui étaient dans un isolement par rapport à leurs parents, qui les aidaient à financer leur première année d'études, et puis après, débrouille-toi, va bosser chez McDo, et voilà. Former un couple et avoir des enfants dans un monde où les liens sont si fragiles leur apparaît souvent comme un risque grave, qu'il faut même parfois reporter à plus tard, même si leur épanouissement personnel en dépend. Et participer à la vie citoyenne, quand l'intérêt général tombe sous la coupe de politiciens qui se font élire en parlant, en promettant, mais en ne s'occupant que d'intérêts très particuliers, d'une classe dominante, qui les corrompt et décide à leur place, cela leur semble de plus en plus inutile, voire dérisoire. J'étais très surpris d'entendre ça, encore une fois, quand j'étais aumônier, dans la bouche de beaucoup de jeunes, ce sentiment de ne pas être attendu par ce pays, par cette société, et l'envie d'aller vivre ailleurs, à l'étranger. Pas seulement comme une année de césure ou comme une première expérience à l'étranger, ça c'est quelque chose qui, de mon temps, quand j'étais étudiant au début des années 2000, se faisait beaucoup, hein. On partait éventuellement juste après le diplôme, travailler un an à l'étranger et on revenait après. Là, j'en entends énormément, de plus en plus, qui me disent « moi ce sera le Brésil, moi ce sera le Canada, moi les États-Unis, moi l'Australie, moi la Chine ». Et quand je dis « oui, mais pour combien de temps ?»« Pour toujours, pour toujours ». Et je parle d'élèves brillants parfois, hein, d'élèves, et là, je trouve que c'est un très 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 mauvais signal que ce départ pur et simple sans retour. Voilà, je ne vais pas sombrer dans la sinistrose, ce n'est pas le propos ici. Et, ne sont plus communes, partagées, données par des institutions de la société qui les fournissent avec un projet social commun qui est relayé par des tas de corps intermédiaires. S'il n'y a plus tout ça, eh bien évidemment, sauf qu'il peut, hein, chacun de son côté, dans un pays qui ne marche plus, on s'en va, hein, il n'y a rien d'étonnant. Après cette morale relationnelle, je passe à un deuxième enseignement de cette étude sur les valeurs des jeunes, un enseignement qui, lui aussi, est peut-être déroutant. Il n'y a plus de jeunesse. Point d'exclamation. Il n'y a plus de jeunesse. Une demande en ordre social. Et là, je garde vraiment le point d'exclamation à « il n'y a plus de jeunesse ». C'est le deuxième constat, peut-être surprenant, de cette enquête valeur de 2008. On voudrait faire des jeunes une génération à part, dont les valeurs sont nécessairement différentes, voire antagonistes, de celles de leurs aînés. Cette représentation, il me semble, est héritée d'un bouleversement sociologique majeur qui intervient dans l'après-guerre, l'apparition de la figure du jeune à travers la prise en compte de l'adolescence. Jusqu'à l'entre-deux-guerres, voire jusqu'au seuil des années 50, on passe assez directement de l'enfance à l'âge adulte, sans réelle transition. Ici, il doit y avoir un temps intermédiaire. Il se passe forcément chez des parents ou chez un membre de la famille pour finir des études. Et on y reste tant qu'on n'est pas marié. Et pour pouvoir se marier, il faut avoir une situation professionnelle. Donc, il n'y a pas d'âge intermédiaire clairement identifié où on pourrait avoir un mode de vie autonome qui se signalerait par des valeurs différentes de ses parents. Après-guerre, dans un contexte de paix, dans une société d'abondance, arrive la libéralisation des mœurs et l'avènement du jeune comme figure sociale. Depuis mai 68, on fait très attention à la jeunesse. On la regarde, on la scrute, on tente de la cerner et de l'affiner et de la définir, parfois avec un soupçon de méfiance. Mais c'était nouveau, ce n'était pas le cas avant. La première vague de cette enquête valeur en 1981 avait identifié un clivage de la société autour en gros de l'âge des 25 ans. Et puis après d'autres clivages encore par tranche d'âge au-delà. En gros, plus on est vieux, plus on est traditionnel et conservateur dans les valeurs qu'on soutient et auxquelles on se réfère pour guider sa vie. Il semble que ce clivage soit en voie de dépassement, selon l'enquête de 2008. En effet, l'individualisation des valeurs que j'évoquais tout à l'heure ne s'accompagne pas d'un moindre respect des règles sociales, ou plutôt, elle ne s'accompagne plus du rejet des normes sociales. L'autonomie souhaitée dans la vie privée, qui se traduit par une morale relationnelle, se combine en effet avec une montée du principe d'autorité dans la vie publique, le développement de l'opération de ses effets sociaux, dans le cadre de cette morale relationnelle qui évalue les actes dans une perspective conséquentialiste. Ce qui compte, c'est les conséquences de mes actes et non plus en premier chef la morale, les normes qui me sont données d'en haut. Tout se passe désormais comme si plus de liberté dans la vie privée, libéralisation des mœurs, appelait dorénavant davantage de respect des régulations et des normes dans la vie publique. Donc d'un côté, la tolérance vis-à-vis de l'homosexualité, du divorce, de l'euthanasie, de l'avortement demeure ou augmente très très légèrement. Le libéralisme des mœurs et la permissivité sont à peu près stables depuis 20 ans à peu près. Et de l'autre, la confiance s'accroît à l'égard des institutions qui sont porteuses d'autorité, comme l'armée ou la police. Tandis que des actes d'incivisme, comme accepter un pot de vin, frauder le fisc, sont davantage condamnés, au moins dans les déclarations des jeunes. On voit le pourcentage de jeunes qui sont prêts à faire ça, ou qui condamnent seulement du bout des lèvres ce type d'acte. Entre 80 et 2008, ça s'effronde complètement. On avait à peu près un jeune sur deux en 80 qui disait « c'est pas si grave », en 2008, ça passe à 15-20%. C'est du déclaratif, mais c'est quand même une tendance intéressante. Cette évolution est en plus vraiment marquée par les plus jeunes des plus jeunes, vraiment ceux qui ont moins de 18 ans et qui ont été sondés aussi dans cette enquête. Ils demandent par exemple une éducation avec plus de règles et de repères, et eux-mêmes le font et le pratiquent en tant qu'éducateurs ou jeunes parents. Donc, tous les corps intermédiaires ne sont pas désinvestis de la même façon par les jeunes. L'autorité, le besoin d'autorité, lui, revient en force, et avec elle, le capital sympathie des armées augmente. Anecdote, suite aux attentats de novembre 2015 puis de juillet 2016, les bureaux de recrutement de l'armée ont croulé sous les demandes d'enrôlement et les concours de sélection de la police sont devenus très 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 sélectifs du fait du très grand nombre de candidats soudainement arrivés. Alors le contexte des attentats y est pour quelque chose sûrement, mais tout de même, à la fin du XXe siècle, après que le service militaire fut supprimé, personne n'aurait pu imaginer la possibilité même d'un tel engouement 20 ans après. En fin de compte, on commence à voir se dessiner une sorte de convergence générationnelle dans la société. D'un côté, l'autorité est une valeur consensuelle, mais la liberté défendue dans la vie privée préserve la montée de ce principe de tout autoritarisme moral qui pourrait s'imposer. Et dès lors, on se trouve avec un ensemble de valeurs, pas la totalité des valeurs, mais un gros groupe de ces valeurs sur différents domaines de la vie de ces jeunes, qui étaient listés là plus haut, dans ce slide-là, là, les bulles bleues sur le côté. Dans tout ce domaine-là, il y a des valeurs dès 18 ans et jusqu'à un âge qui va de 50 à 60 ans à peu près. Seule la classe d'âge supérieure conservant des valeurs nettement plus traditionnelles. Donc c'est un peu ça que je veux dire quand je dis qu'il n'y a plus de jeunesse. C'est que les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient dans les années 60 ou 80. Les différences qui conduisaient à des conflits intergénérationnels se sont largement, largement estompées. Et en termes de valeurs, la société française apparaît nettement moins clivée par classe d'âge en 2008 qu'elle ne l'était en 81, qui était la première vague de cette enquête. Il y a 35 ans, l'écart entre les jeunes et les adultes demeurait très important dans le domaine des mœurs et des normes morales. Les jeunes étaient beaucoup, beaucoup plus permissifs que les Français plus âgés et respectaient moins les normes sociales, au moins dans leurs déclarations. Et leur sentiment d'appartenance à la communauté nationale était en fait beaucoup plus faible à certains égards. Ils ne formaient pas un continent autonome de la société dans les années 80, mais les liens qui les rattachaient étaient très très différents de ceux qu'on trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, ils n'ont pas forcément confiance dans des tas d'institutions, mais le désir d'ordre, le besoin d'autorité fait qu'il y a quand même une sorte de ciment social, même très diffus, qui les rattache quand même à la société dans son ensemble. Les jeunes, dans le domaine des mœurs, les jeunes d'aujourd'hui sont à peine plus permissifs que leurs âgés, que leurs aînés, ceux qui sont immédiatement avant eux. Mais par exemple, la fierté nationale devient quelque chose de beaucoup plus largement partagé à travers les classes d'âge. Et même dans le domaine des croyances religieuses, et j'y viendrai après, des écarts entre les classes d'âge se sont considérablement réduits. Je vais quand même dire un mot d'un autre clivage social qui a fait son apparition dans la classe d'âge jeune des moins de 25 ans. enfin 25 ou 28 ans, ça dépend des domaines. J'en fais état parce qu'il intéresse mon champ d'activité comme enseignant dans un établissement d'enseignement supérieur. C'est le clivage par le niveau d'études. Ce clivage a toujours été présent dans le monde des adultes. Le monde des adultes est réparti par classe sociale et ces classes sont indexées bien souvent sur le niveau de vie, le salaire et donc bien souvent aussi sur le niveau d'études. Mais ce clivage n'existait pas de manière aussi prégnante chez les jeunes et encore moins chez les enfants dont l'éducation en milieu scolaire socialement mixte assurait un brassage. Ce n'est pratiquement plus le cas. En effet, le développement de la scolarisation durant les 50 dernières années a pu entraîner une homogénéisation des valeurs chez les jeunes qui en ont bénéficié. Mais il a creusé le fossé entre ces derniers et ceux qui en ont été partiellement ou totalement exclus. Les valeurs d'ensemble des jeunes, ceux d'un niveau d'études élevé, se caractérisent, eux, par plus d'intégration sociale, alors que les moins éduqués se définissent plutôt par le retrait et un très faible engagement dans la société. Cette polarisation entre les valeurs des jeunes diplômés et celles des jeunes peu ou pas diplômés se manifeste tout particulièrement dans leur lien à la politique. Les jeunes les plus instruits, on le sait, ceux qui ont terminé leurs études à 22 ans minimum, sont tout aussi critiques à l'égard de la classe politique que les jeunes les moins instruits. Mais ils restent davantage attachés au fonctionnement et aux principes de notre démocratie représentative. Ils ont un plus fort engagement, investissement dans la vie politique en général. Alors, ce n'est pas contradictoire avec ce que je vous disais plus haut sur le désengagement par rapport aux institutions. Les jeunes sont globalement moins engagés, moins confiants dans les institutions, mais parmi eux, il y a ceux qui le sont encore moins. Et c'est ceux dont le niveau d'études est plus bas. L'élévation du niveau d'études ne fait pas qu'on est moins critique à l'égard de la politique. Au contraire, mais elle induit quand même, cette élévation du niveau d'études, une hausse des valeurs universalistes et humanistes de tolérance. Et au contraire, les jeunes moins diplômés, ceux qui ont achevé leurs études à 18 ans au plus tard, sont plus abstentionnistes, plus en retrait des formes de participation protestataire, ils accepteraient plus volontiers un leadership autoritaire et refusent plus souvent de se situer sur une échelle politique graduée ou alors ils votent plus volontiers aux extrêmes. Depuis 30 ans, la société française est marquée par l'élévation progressive du niveau scolaire et le rôle central accordé au diplôme. Et ne pas être diplômé est devenu vraiment un facteur de relégation. Confrontés à des formes d'insertion inégalitaire, les jeunes peu ou pas diplômés peuvent rejeter une société qui elle-même tend à les exclure. Et cette polarisation entre deux jeunesses constitue un enjeu de société, à mon avis, très important pour les années à venir. On en attend encore la prise en compte dans des politiques publiques développées en direction des jeunes. Et puis au-delà de ça, c'est même une question de polarisation des territoires qui se joue derrière. Il y a une vraie polarisation de notre société entre les bénéficiaires de la mondialisation, qui sont en gros les habitants des 10-15 grands centres urbains de France, tandis que les laissés pour compte de la France d'en bas habitent non pas les campagnes, puisque ça, les campagnes, ça a complètement disparu de nos représentations et des politiques publiques aussi, mais les petites et moyennes villes qui ne bénéficient pas de l'effet d'entraînement économique et culturel de la mondialisation. La mondialisation, ça mondialise les gros aéroports et les gares TGV, mais entre, il y a un territoire immense qui est ce qu'un géographe qui s'appelle Christophe Guihuy, Éric Guillon, ben voilà, il y a ceux pour qui la mondialisation marche, et puis les autres qui sont en dehors. C'est une vraie question. La question du niveau d'études recoupe en partie cette question géographique. Alors donc, tout de même, malgré ce clivage présent selon le niveau d'études, il faut bien tenir ce constat selon lequel, grosso modo, il y a une différence générationnelle propre à la jeunesse qui s'atténue sur le champ des valeurs. On pourrait résumer ces deux premiers temps de mon exposé, la morale relationnelle et le retour de la demande en autorité qui identifie les jeunes à leurs aînés, en disant que la tolérance envers les choix privés et la demande d'ordre social vont de pair pour la nouvelle génération. Et c'est la puissance publique qu'ils invoquent à certains égards pour assurer l'ordre et la régulation des relations interpersonnelles, et non pas la religion ou les grandes idéologies. Alors tout ce que je vous dis là se base sur cette enquête de 2008. La prochaine vague, comme c'est tous les 9 ans, la prochaine vague c'est 2017. Vous imaginez bien avec quelle attention je scruterai les résultats de l'enquête valeur de 2017 pour vérifier comment cette tendance se confirme 9 ans après. Je vais en venir maintenant à ce point plus précis du rapport des jeunes à la religion, leurs valeurs religieuses. C'est mon temps, troisième temps, intitulé « Et Dieu dans tout ça ». Et Dieu dans tout ça, point d'interrogation.